Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de 35 piges, l'espace dédié aux femmes de plus de 35 ans qui ont envie de vivre pleinement leur vie. Cet espace est pour vous les meufs, celles qui s'accrochent, celles qui s'en battent le clito de ce que peuvent penser les gens, celles qui assument leurs choix, celles qui avancent en retenant les leçons du passé, celles qui continuent à rire malgré les défaites. Cet espace est pour vous, un espace bienveillant. On va parler d'amour, de sexualité, de confiance en soi, de chagrin aussi, mais surtout d'espoir. Salut Émilie.
Salut Sarah.
Merci beaucoup pour avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de 35 piges.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Alors toi Émilie, tu as 37 ans. Tu es une femme plutôt engagée pour l'écologie et tu t'identifies, tu m'as dit un jour, comme étant une femme écoféministe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, l'écoféminisme, je pense que ça définit bien et ça résume bien mon engagement, c'est-à-dire que je suis, pour résumer, contre toute forme de domination, donc que ce soit sur la nature, sur les femmes ou sur toutes les minorités, que ce soit de genre, d'ethnie, etc. Donc ouais, quand j'ai découvert ce mouvement, je me suis dit que c'était très cohérent puisque ça englobe à la fois les questions environnementales mais aussi les questions sociales.
Alors oui, effectivement, je sais que tu es très engagée autour des questions qui touchent au féminisme et à la condition féminine. Et aujourd'hui, en fait, on aborde un sujet qui est assez tabou, qui est le fait de ne pas réussir à dire non à son compagnon ou à sa compagne pour avoir un rapport sexuel. Et quand je t'ai fait part de ce sujet-là, de cette question, tu m'as tout de suite dit oui. En fait, tu as tout de suite voulu participer. Et en fait, moi, je lisais un article un jour qui évoquait le non-consentement. Au sein du couple. Il parlait d'une nana en fait, qui s'était forcée un soir à faire l'amour avec son compagnon alors qu'elle n'avait pas forcément envie, juste pour lui faire plaisir. Je me suis beaucoup questionnée dessus. J'ai même, avant de te demander, j'ai questionné mes copines pour savoir si elles avaient eu déjà ce genre de situation et elles n'ont pas répondu. Et ça m'a encore plus questionnée parce que je crois que c'est un vrai sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Parce qu'on parle beaucoup de consentement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou de non-consentement, mais on parle pas beaucoup de cette question-là avec une personne qu'on désire, qu'on aime et qu'on connaît. Du coup, voilà, je tenais aussi à préciser dans ce podcast qu'on parle de couple hétérosexuel, puisque c'est la configuration qu'on connaît le plus. Mais bien entendu, le sujet peut s'adapter à d'autres configurations. C'était juste une petite parenthèse. Alors, Émilie, toi, tu voulais témoigner parce que, évidemment, tu me disais avoir déjà vécu cette situation. Est-ce que tu peux nous dire, si tu t'en rappelles, dans quel contexte c'était ?
Oui, bah alors justement, j'ai un peu réfléchi aujourd'hui avant de te retrouver, parce que quand ce sujet a été abordé, j'ai vu aussi récemment le sujet être abordé sur un compte assez populaire sur Instagram qui parle justement de tout ça. Et ça m'a tout de suite rappelé un ex en particulier dont j'étais éperdument amoureuse. Et je crois que lui, j'aurais été capable de beaucoup de choses pour lui faire plaisir. Mmh. Et du coup, je me suis, en me préparant pour aujourd'hui, je me suis posé la question s'il y avait vraiment qu'avec lui ou si ça avait pu m'arriver avec mes autres copains. Et j'ai pas de souvenir aussi marquant. Avec mes autres copains. Donc j'ai l'impression que soit ça m'est pas arrivé avec les autres, où j'étais beaucoup plus honnête avec moi-même et avec eux. Et je pense pour le coup peut-être aussi qu'ils avaient moins d'emprise sur moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a particulièrement marqué avec lui, parce que c'était ça symbolise, enfin le fait que je fasse l'amour sans en avoir, en n'en ayant pas du tout envie, mais pas du tout envie pour le coup là, c'est des souvenirs. J'ai notamment deux souvenirs très précis de ça. Et je pense que ça illustre parfaitement le rapport de dominé-dominant qu'il y avait dans cette relation, et à quel point j'étais prête à m'oublier pour qu'il continue de m'aimer, en fait, quoi. Enfin, c'était, voilà, je pense que j'avais tellement peur qu'il m'aime plus ou qu'il m'aime pas assez, que quand il voulait et que moi je voulais pas, j'arrivais pas à lui dire non. Alors que pourtant, lui, ça lui arrivait de pas avoir envie et on en discutait et il avait même un discours assez rassurant à me dire que c'était normal, qu'il y avait des périodes dans la vie de couple, t'en avais un qui avait plus de désir que l'autre, que lui c'était en ce moment qu'il en avait moins, mais qu'il y avait d'autres périodes où ça pourrait être l'inverse, etc. Conversation que j'aurais pu tout à fait avoir aussi avec lui quand la situation inverse se présentait, mais non.
Et justement, est-ce que tu en as un jour parlé avec lui ?
Non. Non. Mais je pense que ces deux fois vraiment ont été marquantes. Peut-être qu'il y en a eu d'autres où je me suis forcée, et puis peut-être au bout d'un moment, finalement, voilà, parce que par ailleurs, j'avais quand même beaucoup de désir pour lui. Enfin, c'était pas dans l'absolu une période où j'avais pas de désir pour lui. C'était juste un moment très, très, très précis. Et c'était vraiment violent parce que je sais que j'ai des sensations vraiment où j'aimais pas ça, où j'avais envie que ça se termine. Et notamment d'une des fois où j'ai essayé de dire non. Et en fait, j'ouvrais la bouche, mais aucun son ne sortait. Et on était dans le noir, donc du coup, je pense qu'il voyait même pas qu'il a rien vu, lui. Mais vraiment, ça me dégoûtait, je me sentais vraiment pas bien, quoi. Et pourtant, je l'ai fait.
Et je pense, pour te rassurer, Émilie, je pense que tu n'es pas seule dans cette situation. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'effectivement, on a du mal à parler de ça parce qu'on a l'impression, alors soit qu'il faut que ça fait partie un peu du devoir conjugal, entre guillemets, on est ensemble, donc s'il a envie ou si elle a envie de faire l'amour, on y va quand même parce qu'on a ce devoir-là envers l'autre, alors que c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui est complètement erroné. Notre corps, nos envies, nos désirs nous appartiennent, il faut qu'ils soient complètement partagés avec l'autre pour pouvoir avoir quelque chose, un moment qui soit commun et qui soit partagé et qui soit sain. Et je me questionne effectivement souvent sur cette impossibilité de certaines femmes, comme tu le fais ce soir, enfin aujourd'hui, comme certaines femmes de le dire clairement, enfin ne serait-ce qu'autour d'elles ou à en parler à leurs amis, alors que c'est vrai que maintenant qu'on en parle, je me rends compte qu'autour de moi, jamais aucune femme ne m'a parlé de ça, alors que je suis sûre que toutes les femmes que je connais, les dizaines de femmes que je connais, il y a forcément une femme qui a dû un jour avoir moins envie de son compagnon et elle a quand même décidé de faire l'amour avec lui sans qu'il y ait de consentement à 100%. Et c'est ça, moi, qui me questionne. Je me demande pourquoi, en fait, on arrive à cette situation-là où, en tant que femme, on s'oublie pour le plaisir de l'autre, et comme tu disais, alors que toi, ton compagnon te disait clairement que quand il n'avait pas envie, il te le disait. Et je me demande en fait, qu'est-ce qui nous amène, quel est le cheminement qu'on peut avoir. Enfin, je ne sais pas si toi, avec le recul, tu as cette réponse-là. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive un jour à dire oui, enfin à le faire, alors qu'on a envie de dire non ?
Déjà, tu l'as dit, je pense qu'il y a le devoir conjugal. Il y a quand même, on a quand même dans... je pense plus ou moins consciemment, peut-être plus inconsciemment d'ailleurs que consciemment, ça ancré dans nos mœurs, etc. Puisque c'était même dans le contrat, en fait, jusqu'à une époque, je ne sais plus jusqu'à combien d'années, mais dans un contrat de mariage, il y avait ce devoir conjugal vraiment de satisfaire son mari, etc. Donc ça doit, il y a forcément un lien avec ces origines-là. Et après, je vais parler plus pour moi que pour tout le monde. Mais moi, dans ma réflexion par rapport à cette expérience et comment je l'ai vécue et pourquoi dans cette relation-là et pas dans une autre, pour moi, ça montre qu'il y a un déséquilibre aussi dans le rapport entre les deux personnes. Et je pense que si à l'avenir je me retrouve dans une situation similaire où je serais pas où j'arriverais pas à dire à mon conjoint non, j'ai pas envie aujourd'hui. Je pense que je me poserais des questions sur la qualité de ma relation avec lui. À l'époque, à ce moment-là, moi, je l'ai pas du tout vécu comme un signal de quelque chose. J'avais pas le recul. J'étais complètement éprise et sous l'emprise de ce garçon. De cet homme. Mais je pense par contre qu'aujourd'hui, ça serait vraiment un signal d'alerte pour moi quant à une possible emprise de mon conjoint sur moi ou moi, mon incapacité à m'affirmer et affirmer mon désir ou mon non-désir. Donc après, je ne sais pas si ça peut s'appliquer à tout le monde, mais je pense que c'est, je pense qu'on doit, ça doit nous ouvrir les yeux en tout cas si la situation se présente, si on se sent pas assez en confiance pour expliquer qu'on n'est pas bien, si on a, enfin qu'on n'a pas envie, si on a peur de trop vexer l'autre ou de mettre l'autre en colère ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a un souci dans la relation. Il y a peut-être un problème de respect, peut-être un problème de bienveillance, peut-être un problème. Voilà, de rapports dominant-dominé subis, parce que parfois ça peut être aussi un jeu complètement fait avec consentement, mais voilà, donc je pense qu'il y a ça, et après peut-être plus globalement, puisqu'on a toujours tendance à dire que dans les couples c'est les femmes qui ont moins de désir, qui sont moins demandeuses, etc., c'est peut-être de faire mentir aussi cette généralité, à dire je veux pas que mon mec il pense que comme les autres nanas ou comme dans tous les couples, au bout d'un moment les femmes ont plus envie et que je suis comme toutes les femmes. Donc je pense qu'il y a aussi la peur d'être jugée, la peur d'être qu'on considère qu'on est frigide ou pas assez branché sexe, voilà. Donc tout ça, c'est quand même un problème de confiance mutuelle et de confiance en soi.
Nous sommes d'accord là-dessus, Émilie. Effectivement, ce que tu dis est juste. Je pense que tous les cas sont différents. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Et je pense que chaque femme gère cette question-là comme elle le peut. Mais effectivement, moi, j'essaye toujours d'imaginer aussi l'après. Tu sais, comment tu t'es sentie, si tu te souviens, après avoir ne pas avoir réussi à dire non, est-ce que tu as eu... Je lisais justement dans cet article, la femme en question disait qu'elle se sentait un peu coupable, qu'elle avait honte, et du coup qu'elle n'osait pas en parler à son compagnon. Et ça faisait un peu... ça constituait un peu un cercle vicieux et qui l'enfermait en fait dans cette situation. Et plus ça arrivait, et plus en fait elle s'enfermait complètement dans ce cercle-là. Et elle était incapable de le... Ça devenait en gros un peu une habitude. Elle était incapable de sortir de là. Est-ce que toi, tu te souviens comment tu te sentais après ?
Bah, en tout cas, je sais que la deuxième fois, sur les deux fois qui m'ont vraiment marquée où c'est arrivé, la deuxième fois, c'était peu de temps avant notre rupture. Donc voilà, moi je sais que sur le moment j'étais super super énervée contre lui parce que il me connaissait quand même, ça faisait au moins un an et demi qu'on était ensemble, je pense la première fois que ça arrivait. Enfin, j'étais ce qu'on appelle un peu grossièrement une étoile de mer, quoi. Enfin, vraiment, il se masturbait sur moi, quoi. Donc, j'étais super en colère qu'il se rende pas compte que j'étais pas comme d'habitude. Et j'étais super en colère de dire, mais il se rend même pas compte que je suis pas là, en fait, quoi. Il est vraiment en train de se taper son délire. Et je suis son objet, quoi. Et donc, j'étais super en colère, vraiment super en colère. Et donc, je sais que je me souviens qu'après, c'était une fois que c'était fini, chacun se tournait dans le lit et puis ciao, quoi. Donc, c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait quand après l'amour habituellement. Donc, c'est vraiment comme si on était un peu fâchés ou en froid chacun de notre côté. Donc, c'était vraiment. Enfin, je comprenais pas qu'il supporte cette ambiance comme si c'était normal, en fait. Et après, moi, je me suis sentie un peu sale aussi. Hein. Enfin, ouais, je me suis sentie sale et pas du tout prise en compte ou écoutée. Je me suis dit, mon mec ne me connaît pas, en fait, quoi. Ou mon mec en a rien à foutre. Voilà. Et puis après, mais j'ai pas tout de suite, j'ai pas tout de suite pris conscience que en fait c'était moi qui m'étais forcée à faire quelque chose que je voulais pas.
Est-ce que tu étais en colère contre toi finalement? Je suis un peu de psycho.
Je pense que ça, il y avait plein de choses qui me frustraient dans cette relation. Donc, mais ça, c'est venu après ça. C'est vraiment venu après, la colère envers moi. Pas tout de suite. C'est après, mais c'est même quelque part, même plusieurs années après, hein, encore aujourd'hui, cette relation, elle est terminée depuis 5 ou 6 ans. Et encore, aujourd'hui, je me rends compte que j'acceptais des choses que j'accepterais plus jamais, ou en tout cas, pour moi, ce serait des signaux énormes. Donc, non, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi je m'étais comportée comme ça.
Est-ce que tu le sais aujourd'hui?
Ah oui, c'est parce que je pensais qu'il fallait absolument faire plaisir pour être aimé, combler l'autre pour être aimé, qu'il fallait que je m'efface, qu'il fallait que je me sacrifie.
Oui, et puis effacer une partie de toi, ne plus être toi, ne plus être soi pour l'autre, ça c'est quelque chose qui revient souvent hein, quand je discute avec certaines femmes, notamment celles qui dépassent les 35 ans, hein, n'est-ce pas, mesdames? Je dois faire ça parce que j'ai besoin d'être aimée, parce que j'ai peur de l'abandon, parce que j'ai peur d'être seule, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir avoir un enfant à temps, parce que voilà, il y a plein de raisons comme ça qui émergent et qui sont encore une fois, qui sont pas toujours, toujours fondées. Et c'est vrai que la question du consentement au sein du couple, je sais pas toi, mais je l'ai rarement vu abordée comment dirais-je, au grand public de manière comme on le fait là, tu vois, comme on discute comme ça entre deux personnes qui ont vécu ce genre de situation. Et je me rends compte qu'en fait, puisque là il s'agit des femmes, les hommes n'en parlent pas forcément et ne sont pas forcément. Enfin, je ne sais pas si ton compagnon était conscient, mais parfois j'ai l'impression que les hommes ne sont pas forcément conscients de cette situation et que voilà, ils sont dans leur, comme tu dis, dans leur délire. Et j'imagine que ton conjoint à l'époque ne t'a jamais parlé de ça ou il t'a jamais dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, t'es pas comme d'habitude.
Ah non, 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 mais je pense que ça l'intéressait même pas vraiment, en fait, hein. C'était quelqu'un qui était profondément centré sur lui-même, hein, donc, je pense que ça lui... Mais, enfin, je pense que ça lui a pas traversé l'esprit un seul instant. C'est ça qui est triste, hein, mais c'est ça qui me mettait en colère, je pense, hein, c'est de dire, regarde... Enfin, j'existe, quoi. J'existe, mais, à ses yeux, on dirait pas, quoi. Donc, ouais, non, je pense que lui, c'est... Enfin, et quelque part, je me dis, mais enfin, j'espère qu'il s'est rendu compte de rien, en fait, quelque part, parce que s'il s'était rendu compte et qu'il l'avait fait quand même, tu vois,
Oui, ça rend ces moments quand même un peu délicats, un peu désagréables, puisqu'on n'est pas effectivement dans le consentement à 100%. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, d'avoir pris le temps de te confier à 35 piges. On commence très fort là, les débuts des podcasts avec des sujets qui sont pas, c'est pas très agréable et c'est des sujets qu'on n'a pas forcément ab envie d'aborder autour d'un dîner. Mais je pense que c'est important parce que ça permet en fait, moi je parle pour moi pour le coup de prendre du recul, comme ce que tu disais tout à l'heure, de prendre du recul et de se dire bah la prochaine fois, en tout cas si la situation se représente à nouveau, bah clairement je ferai pas les choses de la même manière. Et c'est peut-être aussi parce qu'on prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'en parler, d'extérioriser la chose et de se dire finalement que c'est pas qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte et que ça peut arriver en fait.
Ouais, et puis que de toute façon, c'est un peu cliché de dire ça, mais que la clé, c'est la communication, en fait. Et dès le début d'une relation, enfin, c'est la qualité de la communication et de la confiance qu'il y a entre les deux personnes qui va être garante de la qualité de la relation et du bien-être des deux personnes, quoi. Donc, On doit pouvoir, on doit pas revoir nos exigences par rapport à l'importance qu'on donne à la qualité de la communication dans son couple, parce que voilà, tout ça, on devrait pouvoir en parler sans problème, puisqu'il n'est pas question de, a priori, à la base, d'aller vexer l'autre ou d'aller toucher l'autre. Il est juste question d'affirmer et d'exprimer ses émotions et ses envies et ses désirs. Donc, à partir du moment où on est tous d'accord là-dessus, on doit pouvoir avoir des dialogues bienveillants et de qualité, quoi. Donc, de toute façon, je pense qu'une sexualité vraiment épanouie, elle est basée aussi sur de la communication. Donc voilà, il faut aller chercher la personne avec qui on arrive à parler de tout, quoi.
Écoute, merci beaucoup en tout cas, Émilie, d'avoir accepté de témoigner pour ce podcast. Je rappelle juste à ceux qui nous écoutent que tu viens de créer un compte Instagram qui s'appelle Je suis Vénère, que j'adore. Alors pour l'instant, il est en train de se construire. Donc c'est un tout nouveau compte que je vous invite à aller voir parce que je pense qu'il va y avoir des choses assez sympas. Donc voilà, on est en colère, on est des femmes en colère qui ont besoin, en tout cas toi, d'exprimer certaines choses par rapport à l'écologie, à la question des femmes, la sexualité, l'amour, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas aborder. Moi, je vais te suivre de très près, en tout cas. Merci beaucoup, Émilie. Merci d'avoir eu le courage, le plaisir. J'espère d'avoir passé ce moment à parler de cette question du consentement dans le couple. Peut-être un mot pour conclure.
Oui, bah oui, tu parles de Je suis Vénère, c'est sympa, merci. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est juste créé parce que je voulais juste réserver le nom Je suis Vénère, mais que l'idée, c'est vraiment de venir légitimer la colère quand elle est vitale, en fait, quoi, quand c'est une question de survie et de défense du respect, de valeurs, etc. Et parce que je suis convaincue qu'il faut, et c'est pour ça que je suis super heureuse qu'un blog comme 35 piges existe aussi, parce que c'est hyper important aujourd'hui. La chance qu'on a dans l'époque terrible qu'on vit, c'est la liberté de faire des choses. On n'a jamais été aussi libre de pouvoir faire des choses. Donc cette liberté, il faut qu'on l'utilise pour occuper un maximum l'espace, pour faire tomber les tabous, pour arrêter de donner trop de place à tous ces discours rétrogrades, sexistes, racistes, homophobes et climato-sceptiques, etc. Et que voilà, c'est notre mission, quoi, à 35 piges et à Je suis Vénère, quoi, entre autres, d'occuper l'espace pour balancer plein de good vibes un peu partout.
Je ne pouvais dire mieux. Je m'arrête là. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour le prochain épisode 35 piges. À bientôt.